êtes sur CPU et oui, c'est le retour de l'émission Carré Petit Utile sur Radio FMR. Dans cette release de CPU, le cartable de la rentrée, des idées de génie, Ugly les bons tuyaux et un start-upper. Je suis allé un petit peu vite, du coup je me suis foiré sur le générique. Tant pis, on garde, c'est normal, on est dans les conditions du direct, on n'a rien à faire. L'équipe aujourd'hui, Chris O'Brien et Daskritch, et notre invité Julien Del Rio, cofondateur de Loader App. Et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis son portable sur silencieux. Non, parce que c'est un studio de radio ici. Allez, c'est parti.
CPU, carré, petit, utile.
Et oui, c'est la rentrée, ça fait bizarre quand même d'être venu, on est en deuxième année. Donc bonjour Chris, tu vas bien ?
Bonjour, oui.
Des super vacances ?
Oui, pas mal.
Bonjour Julien, merci d'être là. Pour le retour, oui,
c'est mieux avec le micro.
C'est mieux avec le micro, voilà. On aura une pensée parce que là, on va enregistrer en fait trois émissions d'un coup pour alimenter l'antenne. Donc, il y a Gaël qui va nous rejoindre, qui va enregistrer par la suite. Myriam qui sera bientôt à nouveau présente. On aura plein d'autres de nouveaux animateurs. Et malheureusement, nous devons faire une défection.
Ah, bon courage.
Oui, c'est un petit peu compliqué, malheureusement. Ah oui, j'ai une breaking news.
And now, the news.
Vous écoutez Radio FMR, enregistrement du 20 septembre 2016. Il est 19h06. Les informations présentées par Daskritch. Elle s'appelle Morgane, elle est née ce matin à 7h48, elle pèse 3,825 kg et c'est la petite de Solarus. Mega Yumine, sa douce et tendre épouse vont très bien et on peut applaudir. Bordel de... Donc, par là même, Solarus est virée de cette antenne pour au moins 6 mois. Non, mais obligé quand même, hein. Il faut qu'il soit sérieux, il faut qu'il apprenne à être papa. Non, il n'y a pas de raison.
Ça prend du temps.
Ça prend du temps, effectivement. Donc, si on faisait réellement la rentrée, ben bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui donc a désormais une deuxième marraine pour accompagner l'émission. Toi, avec qui nous sommes heureux de passer donc en deuxième année, nous voici pour une deuxième saison que nous te souhaitons chatoyante, passionnante et utile. Oui, CPU. J'avoue, j'ai eu du mal sur la première lettre, preuve que nous restons des amateurs. Lors de la première année, j'ai eu le bonheur de lancer cette émission avec une équipe compétente, ouverte et motivée, et surtout prompte à la blague. Voilà, in fact I mean. Ils acceptaient de rire nerveusement à mes blagues moisies, Chris ne comprenait pas que je blaguais, voilà, à peu près, et Gaël comprenait que je me suis planté. L'esprit de camaraderie de notre team est absolument légendaire. Malheureusement, nous faisons face à une défection Solarus, mais qui reviendra en tout cas d'ici qu'il aura fini de s'égarer dans les histoires de biberons, de layettes et de couches culottes. Revenons à nos startups. Nos amis de la French Tech Toulouse vont organiser pour la deuxième année consécutive M-Tech France en collaboration avec le MIT Technology Review. Oui, ce MIT-là, le Massachusetts Institute of Technology. Arrête de marrer de mon accent, c'est gênant, Chris. Pour faire une rentrée qui claque tout autant, l'équipe de French Tech Toulouse a suscité un festival autour du numérique et de l'innovation sous le nom de Human in Tech, alias HINT, du 17 septembre au 7 octobre. Il se trouve que nos enregistrements publics de ces premières émissions se font donc dans le cadre de la HINT. Eh ben oui. Il faut dire que depuis qu'il a posé en marinière avec le top de la technologie Seb, c'est bien, Arnaud Montebourg, avant de filer un vent à C8, a rendu le Made in France tellement hype que même Chris O'Brien a quitté la Silicon Valley pour s'installer place Arnaud Bernard, d'où il a pris un abonnement au Stade Toulousain. Putain de con. Alors, pour une fois, parlons de chez nous, localisons un petit peu l'émission, en parlant de l'innovation sur Toulouse, des idées qui façonnent le futur. Par exemple, si je vous parle du Pont Neuf, tout le monde songe à ce magnifique pont de pierre blanche qui enjambe la Garonne, le plus ancien pont jeté au-dessus du fleuve dans notre ville qui ne soit pas en bois. Les gens connaissent moins l'hôtel particulier de Bagis, à la spectaculaire façade en brique, sculptée, que nous pouvons admirer pas loin au numéro 25 de la rue de la Delbade. Bon, je sens comme un flottement dans l'assistance. En fait, tout le monde sait ici que le pont neuf est constitué principalement de briques roses, et que les pierres prévues pour ledit pont auraient servi à construire la fameuse façade de cet hôtel particulier. Oui, à Toulouse, nous avons inventé le détournement d'argent public et de biens sociaux combinés. Bon, j'ai utilisé le conditionnel pour la petite histoire qu'on n'est pas à l'abri d'une plainte pour diffamation. Arrêtez de râler dans le fond. Vous êtes juste jaloux de ne pas l'avoir fait avant. Van à part. Enfant du futur immédiat, Toulouse est une terre d'innovation formidable. Depuis la maîtrise de la teinture à la violette, et croyez-moi qu'il faut sacrément bien gérer la chimie organique pour le faire, et les oxydos réduites aux organomagnésiens, jusqu'à la conception de pilotage de la sonde Philae. Et selon une statistique sortie la semaine dernière, Toulouse serait la deuxième ville européenne en fonds levés par les startups après Londres et devant Paris. Moi aussi, ça m'a un petit peu surpris. Alors, vu que notre émission du jour est sous le parrainage de la French Tech Toulouse, de Toulouse Métropole et de la Chambre de Tourisme, non, je rigole, on n'a pas du tout été sponsorisé. Nous te proposons de faire un petit tour de l'écosystème local de l'innovation. Allez, hop, suivez le guide.
Que nos souvenirs nous attachent à certains lieux. Ok, mais nostalgie à part, explique-moi un peu. Quel mérite et quelle fierté peut-on donc avoir à être né quelque part et non pas autre part? Quand on raconte sans honte qu'on vient d'un pays de cons, ne supportant pas qu'on ne parle pas un peu de chez eux, y'a des gens qui se vexent et nous pointent de l'index, nous disent non, non, c'est chez nous qu'on est les plus cons. Comment peut-on confondre à ce point le trou d'un cul et celui d'un nombril pour chanter comme le font les copains? Ma ville est la plus belle des villes, la plus belle des villes, la plus belle. C'est une cité bigarrée, blanc, jaune et noir sont mélangés, mais on s'est arrangé pour qu'ils se partagent qu'un seul quartier. Ici la démocratie est dans la rue, je te jure, même si ça fait 20 ans qu'à la mairie y'a la même enflure, la même enflure. Que de jolies rues, de petits trottoirs dans ma ville. Chacun sa voiture, sa bagnole, son automobile. Tout le monde plaisante, cool, sympathique. Voyez comme sont mignons les petits commerçants et leurs flics. Quelle chance, quel bonheur d'être né dans cette ville. La culture rayonne sur un bon paquet d'imbéciles. L'économie est florissante grâce aux industries polluantes. Mais comme ça crée du turbin, tout le monde applaudit dès demain. C'est la joie dans ma ville, la joie de vivre tranquille. On boit de l'alcool,
oh, on joue au football.
Ben tu parles d'un particularisme régional. Pour les causes, si c'est ça, moi je me jette dans le canal. Comment peut-on confondre à ce point le trou d'un cul et celui d'un nombril pour chanter comme le font les copains?
Ma ville
est la plus belle des villes. Paraît-il qu'il faudrait retrouver nos racines et savoir d'abord d'où on vient pour savoir qui on est. Ça vaut peut-être le coup pour les Indiens, les exilés, mais toi fais pas ton malin, je t'ai toujours vu dans le quartier. Une fois vomi ton pastis et pété ton cassoulet, une fois que les légendes celtiques te feront plus planer, une fois que t'auras fini d'applaudir au corrida, quand tu sauras bien d'où tu viens, peut-être qu'enfin, on pourra se demander où on va. Alors que certains invoquent la liberté d'expression pour que renaisse l'usage du langage de leur région, moi j'en perds mon latin, mais ajoute sans rire, finalement pas toi ou français. La question est, qu'est-ce que t'as de beau à nous dire? Hein? Hein? Je chante avec l'accent, c'est beaucoup plus sympathique. Non pas que je l'ai vraiment, mais ça plaît tellement au public. Je chante avec l'accent des enfants du pays, ces enfants qui pourtant comprennent rien à ce que je dis. Je chante avec l'accent, je suis un chanteur d'ici. Mais ton succès pourtant, tu te l'es fait à Paris. À Paris, la critique est branchée musique ethnique. Même si les flics n'aiment pas trop les voix exotiques.
Y'a pas à dire, c'est provinciaux, c'est comme les noirs africains. Ils ont le rythme dans la pose, c'est assez nouveau, j'aime bien. Puis au moins pendant qu'ils s'occupent de leur petit pays, on fait leur robe des marchands sans leur demander leur avis.
Avec l'accent de Marseille, y'a de quoi se faire du flouze. Avec l'accent de Marseille, y'a de quoi se faire du flouze. Avec l'accent de Marseille, y'a de quoi se faire du flouze. Sinon on se fera l'oseille avec celui de Toulouse. Comment peut-on confondre à ce point le trou d'un cul et celui d'un nombril pour chanter comme le font les copains?
Ma ville
est la plus belle des villes. Villes. Alors je laisse le dire à notre invité qui c'est qui a chanté. Parce qu'il est content, il les a reconnus.
Les Malpolis.
Ouais, c'était leur premier vrai album, Élargissent leur cible. Et, c'est, et on sent que la chanson, elle a 20 ans parce qu'il est question, en des termes peu flatteurs, d'un ex-maire de Toulouse qui a été aussi président du CSA. Hélas, regretté, et entre-temps, il y a eu des alternances politiques, mais ça, on va voir peut-être dans...
De toute façon, les malpolis, il faut toujours écouter les textes qui sont très...
Ah, ils sont formidables.
Plein de sens politique.
Voilà, mais il fallait qu'on passe quelque chose de politiquement non correct, pour qu'on ne croit pas qu'on soit un petit peu vendu, donc je pense qu'il n'y avait rien de mieux. Chris, je veux te présenter donc justement qui est la personne que nous recevons aujourd'hui, puisque, oh là, j'ai plus l'habitude des lancements, ça m'apprendra. Nous avons déjà reçu notre invité lors de la dernière édition du Startup Weekend, et c'était vraiment un bonheur d'avoir enregistré justement pendant le Startup Weekend. Mais en tant que témoin et acteur privilégié de la scène startup sur l'agglomération toulousaine, il nous semblait évident d'en reparler avec lui. Nous recevons donc à nouveau Julien Del Rio, consultant innovation et mobilité pour One Light Studio, cofondateur de Loader App Startup pour Community Manager, co-organisateur des Startup Weekend sur Toulouse et porteur d'un béret communicant que là il a laissé de côté puisque le Bluetooth ça bouffe quand même les batteries.
CPU carré petit utile.
Bangour, du coup.
tu vois, moi, je viens de la Tessie, tu vois. Moi, je viens de la rue Croix-Baragnon, banlieue beaucoup trop défavorisée parce que les prix sont vraiment trop chers, tu vois. Alors moi, j'ai ramené mon correspondant américain, Chris O'Brien, aussi dit cri-cri d'iPad. On a des idées, elles sont trop géniales et révolutionnaires. Et il faut qu'on monte une start-up, alors on est venu te voir. Est-ce que c'est possible de monter une start-up?
Mais carrément, sacré ascenseur social, la start-up. Donc, c'est le lieu parfait.
Ouais, pour monter une start-up, qu'est-ce qu'il faut?
De la motivation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation.
Alors, la motivation, ils en filent comment?
Ça se deal. Il y a des lieux où ils t'en deal, et il faut connaître les bons dealers.
Bon, on a une idée. Une idée, ça se conçoit. En général, les gens qui créent sont aussi un petit peu des makers. Il y en a d'autres qui sont purement des commerciaux et qui essaient de recruter aussi des développeurs pour les aider. Alors, où peut-on recruter des développeurs expérimentés, talentueux, dans une technologie précise?
D'accord, on commence par la question la plus compliquée.
Mais on a le temps.
J'apprécie.
On a le temps, on a 40 minutes.
Je crois que c'est à la fin.
Ah bah très bien.
Je croyais que il n'y a pas que
reculé.
Ça en plus.
Non mais pas de souci. Alors c'est le gros sujet et malheureusement je pense qu'il n'y a pas grand monde dans le monde qui a trouvé la réponse. À Toulouse c'est particulier. On a effectivement les startups, ça vient beaucoup du numérique. C'est plus facile de faire de l'innovation dans le numérique parce que ça coûte moins cher. Tu as besoin d'un ordinateur, tu commences à coder, tu peux même faire héberger ton site internet à peu près gratos sur plein de supports. Donc c'est le bon moyen de développer, sauf que même si ça commence à avoir des cours d'informatique et de codage dès le collège, je crois.
On dit bien codage.
Ouais, moi j'aime bien dire codage. C'est rigolo.
Et donc, on recrute des programmateurs?
Des codeurs?
Non, fais gaffe, parce que je suis programmeur dans le CV, mais je suis programmateur à la radio. Hein.
Ah,
mais je suis pas programmateur codeur. De lave-linge. Hein.
Codeur? Parce que c'est... on fait du codage et pas du programmage.
Bon, la blague est nulle, parce qu'il y en a un qui est lost in translation de l'autre côté de la table.
c'est le scepticisme... Américain.
Well, et c'était toujours le même ou quelque chose a changé récemment pour élever le nombre de startups ici ou la scène ici?
Spécifiquement à Toulouse, je pense que ça joue comme un peu partout dans le monde, mais comme je disais, l'intérêt de faire ces startups dans le numérique pour Toulouse, c'est que Toulouse, grâce à un super avionneur, a un gros bassin informatique. Je crois qu'on est troisième bassin ou quatrième d'informatique en France. Et donc forcément, on a plus de gens qui sont armés pour faire du développement. Mais à contrario, donc ça a créé beaucoup d'envie. Mais à contrario, le problème, c'est qu'on a des développeurs qui sont formatés à plein d'autres choses à l'opposé de l'entrepreneuriat. Mmh. Et ça pose des problèmes pour la, par rapport à la première question, pour justement trouver le bon profil à Toulouse.
Alors moi, ce qui m'a impressionné quand j'ai regardé justement quels étaient les bassins d'emploi vis-à-vis du développement logiciel dans le numérique, je me suis rendu compte qu'en fait, chaque ville avait plus ou moins sa spécialité. Il y a beaucoup de demandes sur JavaScript à Paris, il y a beaucoup de demandes sur il y a beaucoup de développeurs disponibles, même en PHP sur Lyon, qui sont expérimentés. Et en fait, principalement, on trouve beaucoup de développeurs à Toulouse autour de la technologie Java. Et Java, c'est vrai, Airbus. C'est dans Android, mais avant ça, c'est ça qui est surprenant, c'est que c'est arrivé assez tardivement, en fait, dans l'avionique et tout ça.
Ouais, mais c'est pareil, c'est des besoins qui sont concentrés dans les centres de compétences et les plateaux de développement par les sous-traitants d'Airbus. Donc forcément, les formations qui sont derrière forment beaucoup de développeurs Java. Le cercle de la vie du développeur Java qui a derrière. Et effectivement, des parents développeurs font des petits-enfants développeurs Java et les formations en font beaucoup.
Oui, well, c'est une chose pour parler de la compétence des développeurs, mais c'est une autre chose pour considérer l'esprit de faire une start-up.
Exactement. C'est ce que je disais. Le problème, c'est que c'est des gens qui n'ont pas forcément... qui sont très formés école d'ingénieurs. On a des beaux IUP, des belles licences pro à Toulouse. Sauf que c'est des gens qui sont formés pour très bien exécuter des tâches de développement, concevoir des produits à partir de cahiers des charges. À Toulouse, on a cette difficulté de trouver des développeurs qui ont un esprit entrepreneurial, dans le sens aller au-delà de sa mission, ne pas juste réfléchir à la bonne ligne de code, mais à la ligne de code intelligente par rapport à la construction de la start-up. Et c'est ces profils-là qui sont très difficiles à trouver. Quand dans les milliards de casquettes que tu as pu me donner au début, j'anime une association de développeurs.
Mmh. On va le dire. Hein, c'est l'Android User Group de Toulouse. Donc c'est vrai que c'est une techno qui est Java, c'est une techno aussi qui est proche de Google et de la mobilité.
C'est ça. Mmh. Et on a monté là avec pas mal d'autres communautés de développeurs, autant du AngularJS, du JavaScript, donc le JUG, le Java User Group, une conférence en novembre là, d'une journée pour les développeurs. Et forcément, on a cherché des sponsors et on a eu beaucoup de demandes de start-up parce que c'était la seule occasion. Enfin, c'est à part les meet-up en fin de journée qu'on peut trouver un peu partout dans Toulouse, et il y en a vraiment beaucoup.
C'est très impressionnant. Depuis 5 ans, c'est vraiment une explosion. Au départ, ça a commencé timidement avec les blogs sur Garonne qui n'étaient pas franchement en rapport. Et maintenant, il y a tout. Il y a les meet-up WordPress, il y a des spécialisés autour de Node.js. De ce côté-là, c'est extrêmement impressionnant la manière dont c'est foisonnant.
Pour la petite anecdote, on a lancé un Slack pour discuter entre communautés.
Alors, Slack.
Donc Slack, c'est une plateforme de chat qui vient d'une start-up américaine, justement. On est encore dans les start-up.
Désolé.
Il y en a qui arrivent de
Il y a beaucoup de copycat en France.
Donc chacun peut avoir en gros son ensemble, son sous-Slack dédié. Donc on en a lancé un à Toulouse pour les communautés au sens large. Et essentiellement, ça a été lancé par des développeurs. Donc il y a beaucoup de développeurs. Et on a une pseudo-dispute la semaine dernière, parce que le 15 septembre, on a compté, je crois qu'il y avait 7 ou 8 meet-up en parallèle à Toulouse.
Ça ne m'étonne pas.
Et donc, c'est difficile pour un individu de se couper en 7. Et donc, il y en a beaucoup qui ont dû faire un choix, quoi, et c'est compliqué.
Il y a aussi maintenant beaucoup de lieux qui se montrent justement pour ce genre d'événements communautaires et tout ça. On est dans une entreprise qui s'appelle Equito. On est en train d'enregistrer au Grand Builder. C'est un lieu qui nous prête. Sur lequel ils prêtent et ils organisent des soirées associatives ou de rencontres justement, soit autour de technologie, soit entrepreneuriale, soit ce qu'on appelle de relations. Il y a maintenant, on a eu une explosion hallucinante quand même d'espaces de coworking. Ça avait commencé avec d'abord une petite expérience chez la cantine, ensuite il y a eu Tau, ensuite il y a Étincelle Coworking. Actuellement, l'Étincelle Coworking, ils ont 4 espaces qui sont en train de se monter. Je crois qu'il y a même maintenant il y a une start-up qui se crée sur le principe de coworker dans un restaurant.
Oui, il y a French Work, une start-up toulousaine.
Bah oui, non, mais c'est le moment d'en profiter de les citer. En fait, j'ai l'impression que ce qui fait que ça explose vraiment, c'est que on n'est plus vraiment seul. On a vraiment la possibilité de se rencontrer IRL. je ne vais pas dire away from keyboard, c'est plutôt vraiment physiquement, et la possibilité de travailler ensemble. C'était quelque chose qu'on n'avait plus, qu'on n'avait pas vraiment avant, justement, de ce côté-là.
Je ne suis pas convaincu que ce soit que ça. Je pense qu'il y a un vrai, sursaut générationnel. Tu vois, dans ces coworking, il y a quand même beaucoup de moins de 35 ans qui cherchent à bosser différemment. Et qui cherche soit effectivement à monter une start-up, donc peu de moyens, et donc c'est une façon d'avoir des locaux souvent facilement, pas forcément pas cher, mais facilement, tout simplement parce qu'il y a pas des, t'as pas un bail de 9 ans à signer.
Ouais, forcément.
Et voilà. Et après, beaucoup de travailleurs indépendants qui, du coup, sont près de ces start-up. Et c'est vrai que c'est quand même un milieu, le coworking, qui.
Le coworking, moi, je connaissais. Mais dans un domaine qui était très différent des startups, c'est celui des dessinateurs BD. C'est là où tu avais des ateliers de bande dessinée. Il y en avait 3-4 qui s'étaient montés à Toulouse à la fin des années 90. Donc il y a quelques graphistes effectivement qui connaissaient plus ou moins le principe, mais ça a vraiment été la nouveauté quand tous les indépendants se sont vus. Et par exemple, quand je débarquais à Tau et qu'on me disait ah ben un tel est architecte, un tel effectivement bosse avec de très grosses boîtes, un tel est journaliste, il y a vraiment une explosion à partir de là et vraiment un mélange de cultures qui devenait intéressant.
C'est l'état d'esprit qu'il y a derrière. Il y en a un autre coworking un peu amusant qui s'est lancé. Il y a Digital Village. Qui est un mix entre le coworking et l'agence. Ils ont des indépendants de plusieurs compétences qui vont travailler une moitié de leur temps pour leurs propres clients et la moitié de le reste du temps pour des clients partagés avec les autres indépendants. Donc on est à la fois sur, et souvent ils travaillent pour les startups, et on est à la fois sur un mode de travail qui est dans l'air du temps, qui change. On a de plus en plus de, c'est aux États-Unis, donc je crois qu'il y a un tiers de d'indépendants.
Plein de.
Et il y a un peu moins en France, mais donc ça se construit. Et on est à la fois stimulé par le monde des startups, où effectivement il y en a de plus en plus à Toulouse. Et malgré tout, c'est des entreprises qui sont jeunes, qui n'ont pas forcément les moyens de recruter, donc qui travaillent avec des indépendants, qui se rapprochent donc des indépendants, et surtout qui. On est sur une durée de vie qui n'est pas forcément immense pour les startups. Hein. On parle
c'est le principe. Hein. On reste une startup que tant qu'on n'a pas de réelle rentabilité et qu'on n'a pas trouvé son modèle.
Et surtout, il y a un gros taux d'échec. Hein. C'est vrai qu'on présente toujours les startups par celles qui ont eu du succès. Mais pour 10 startups pour une startup qui réussit, il y en a 10 qui ont même pas, qui ont fait une levée de fonds et qui ont plouffé, et au moins une centaine de plus qui ont même pas réussi à lever des fonds. Donc c'est ça aussi. On est sur un milieu assez éphémère. Parce que il faut des moyens, je parlais de motivation au départ, pour arriver jusqu'au bout et combattre tout ce qui va arriver, tous les éléments qui vont venir face à face.
Et tu as trouvé toutes ces places sont remplies, ou il y a besoin de tous les coworking spaces ou...
Là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, je pense, à Toulouse en tout cas, plus d'espaces de coworking que de coworkers pour l'instant. Il y en a beaucoup qui se lancent en se disant qu'il
y a une
faut
bulle.
Être là. Ouais, pas forcément. Alors, une bulle dans le sens où il y a beaucoup d'attentes. Il y en a qui pensent que ils se mettent en place le temps que la maturation vraiment du nombre d'indépendants en France explose. Donc, par rapport à ça, ça peut être une bulle dans le sens où s'il n'y a pas d'indépendants dans les quelques années, ils auront des places de coworking qui seront vides. Et après, on a quand même des espaces de coworking qui sont, alors pas des coworking, mais là, comme Equito ici, qui sont des espaces de travail partagé avec un but d'accompagnement. On va retrouver ça ici, donc chez Equito, on va retrouver ça aux starters de la cantine, on va retrouver ça par exemple à Atom, qui est une coloc de start-up qui s'est lancée à mi-chemin entre le coworking et les locaux partagés, ou alors à la Belge, on a l'IoT Valley qui a la passerelle, qui est un lieu comme ça où effectivement un espace où avant d'atteindre les étages supérieurs, parce qu'on a les moyens d'avoir nos propres locaux, on partage un espace avec d'autres startups. Et c'est ça aussi qui est intéressant à Toulouse, et pourquoi quand tu dis qu'on a levé plein de fonds, tant mieux, mais parce qu'il y a un écosystème en fait qui était déjà en place qui était peut-être mal exploité et qui se structure autour des startups. Malheureusement, c'est un système qui est compliqué parce qu'il y a une maturation des startups à Toulouse qui est encore très jeune. Des startups qui ont 5-6 ans et des moyens et de la vue sur 2-3 ans, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est des lieux où il y a beaucoup de passages et des gens qui restent quelques mois.
Bon, ok. On a un lieu, on a des développeurs confirmés. On va parler tout à l'heure de comment trouver les stagiaires, comment trouver les premières clientèles, etc. Mais les start-upers, ça se nourrit et ça se boit. Alors, peux-tu nous donner 3 adresses à pizza et 3 adresses à bière qui sont intéressantes?
Ça va être compliqué, ça va dépendre de ce que vous
êtes. Tes cantines favorites?
À Toulouse, on est quand même avant tout une ville étudiante. Donc, c'est difficile.
Ouais, ça, on parlera tout à l'heure des stagiaires, paie mal.
Pas à ce sens-là, mais sur la dynamique que ça a apporté en termes de bars et restaurants, des adresses, il y en aura un paquet. Mais je peux te donner l'adresse pour aller faire l'afterwork à pas cher, aussi pour inviter des clients ou pour aller célébrer une levée de fonds avec le reste de l'équipe.
D'accord. Ben, on va vous écouter Radio FMR, c'est CPU numéro 35 avec Julien Del Rio et donc Chris O'Brien qui co-interview avec moi. Et on fait un petit break en ne disant pas que Toulouse, c'est absolument génial. Didier Vampas, Toulouse, extrait de l'album Never Trust a Guy Who, After Having Been Punk, Is Now Playing Electro. Non, je suis absolument nul. Et donc, nous continuons cette émission avec Julien Del Rio, qui est donc consultant innovation et mobilité pour One Light Studio et cofondateur de Loader, qu'on invite parce que tout simplement, Chris et moi avons décidé de monter une start-up.
Bonjour. Je veux demander à propos de l'institution. à Toulouse, l'université. Il y a le changement avec les institutions comme les universités pour soutenir les startups ou enseigner ou aider ou quelque chose.
Alors, il y a deux écoles. Tu vas avoir l'école des universités qui n'ont toujours pas compris et pour qui l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est moche, c'est mal, c'est horrible. Donc, tu vois, c'est des universitaires, ils ont déjà du
mal. Est-ce que tu parles de certaines universités qui sont connues pour leur score manifestant et à leur UFR de 4e international?
Bon, enfin, globalement, les universités publiques ont du mal avec l'entrepreneuriat et le monde privé.
Université que je chambre, mais ils ont une très très bonne IUT d'informatique à Blagnac, d'ailleurs.
Hein. J'en sors. Je ne peux qu'en dire du bien. Donc, typiquement, les facs ont du mal sur l'entrepreneuriat et ça commence à bouger. Si j'ai bien suivi, il y a la Mêlée qui a signé un accord pour accompagner des étudiants, mais de l'université de je sais plus laquelle. Mais c'est pas ce qui bouge le mieux. Ce qui bouge le mieux, il y a les comment ça s'appelle, les entrepreneuriales ou quelque chose comme ça, un programme d'accompagnement d'entrepreneuriat chez les étudiants. Il y a des écoles, c'est plutôt les écoles d'ingé là, qui sont bien positionnées, les écoles de commerce, les écoles de com. Donc c'est bête, hein, mais les écoles privées sont plus à même à former des gens pour aller travailler dans le privé, l'entrepreneuriat, que les écoles publiques.
Et le gouvernement, on a parlé de la French Tech, le gouvernement national, mais il est le gouvernement de région, l'Occitanie, Toulouse, Haute-Garonne, et tous les officiels parlent de la start-up, de l'énergie, de l'entrepreneur. Tu as remarqué un changement avec le soutien ou ça aide les start-up?
Alors déjà, à Toulouse, c'est compliqué. La région et la ville sont à deux bords politiques opposés. Donc ça amène son lot de complications.
Sans compter que maintenant, on a aussi donc une communauté de communes et qui fait doublon avec le conseil général, pardon, départemental. Enfin, on ne sait plus trop. Quoi.
Une grande région qui en a rassemblé deux. Enfin, c'est complexe. C'est difficile là, sur l'aspect politique régional, c'est difficile là, avec les derniers changements, de dire ce qui a pu vraiment changer. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de French Tech, du programme national, au niveau national, c'est un truc qui est plutôt pour de la com internationale. Par contre, l'idée, c'était de permettre de structurer des pôles locaux, dont un French Tech à Toulouse, via donc les French Tech. Et maintenant, il y a un nouveau programme qui vient d'être lancé, plus les thématiques French Tech, je crois que ça s'appelle. Donc, pour des choses beaucoup plus verticales.
On en parlera en troisième partie.
Oui. Voilà. Bon, ben voilà. Et donc, il y a un soutien quand même des pouvoirs publics, mais malgré tout, c'est fait maladroitement, parce que c'est comme souvent les startups ont des problématiques qui sont très très particulières et si on n'a pas vécu de l'intérieur, on a du mal à se projeter dessus et donc du coup, je pense que pour des politiques, c'est difficile de trouver les bons éléments pour apporter du soutien concret, quoi.
Bon, on a une idée, on a constitué une équipe, on n'a pas encore vraiment les fonds pour parce qu'on se rend compte que finalement les fonds propres ne suffisent pas. Donc qui c'est qu'on va voir, en fait, pour avoir le fonds de roulement pour aller un petit peu plus loin? On va prendre rendez-vous chez le conseiller bancaire de La Poste?
Alors, déjà, il faut savoir que le premier financeur de start-up en France, c'est Pôle emploi. Donc, il y a beaucoup de start-upers.
Non, mais c'est vrai que j'ai pu me lancer en indépendant grâce à eux. On oublie qu'effectivement, quand on vient d'entrer au chômage, on a 2 ans. D'indemnité et on y a droit pendant le temps que on monte une activité.
Et c'est je sais pas si c'est triste à dire ou quoi que ce soit, mais pour en avoir discuté, j'y suis passé il y a un an et demi, pour en avoir discuté un peu avec mon conseiller, en interne à Pôle emploi, il préfère suivre quelqu'un avec un projet de start-up que quelqu'un qui veut créer une Xème pizzeria. Parce que
c'est con. Enfin bon, je suis dans une rue où il y a trop de pizzerias, mais il y a plus de chances d'en vendre que.
Ouais, alors il y a plus de chances de succès, mais le succès du coup est beaucoup plus planifiable. Du coup, ce qui les intéresse aussi dans la startup, c'est que ta pizzeria.
C'est pas seulement que c'est le nom startup, c'est que.
Potentiellement, ça peut être beaucoup plus gros. Ça peut grossir vraiment. Si l'idée est bonne, si l'exécution est bonne, ça peut exploser.
Donc, ça recrutera plus que des pizzas YOLO et des mecs en scooter qui doublent dans les feux rouges pour livrer une calzone.
Et qui sont payés au lance-pierre. On pourra parler du fait que les startups payent aussi les premiers temps au lance-pierre. Mais les startups qui ont les moyens payent bien parce qu'ils ont besoin de gens de qualité et ils veulent les garder quand ils y sont. Donc voilà, c'est intéressant, on a Pôle emploi.
Tu as remarqué la différence entre les entrepreneurs qui sont au chômage ou les entrepreneurs qui soient soutiennent
Alors moi, typiquement, je suis entrepreneur en temps extra-professionnel. Donc j'ai un boulot le jour et ma start-up, Louder, je la lance avec deux associés le soir et week-end. Donc clairement, il y a une différence entre celui qui est à Pôle emploi et qui peut faire ça sur sa semaine et nous qui le faisons par coup de quelques heures par semaine. C'est beaucoup plus long à lancer. Par chance, on est les seuls à penser que notre idée est bonne. Donc, on n'a pas trop de concurrence. Mais blague à part, y a une différence entre ceux qui ont un chômage et qui peut leur donner un peu de temps et ceux qui sont soit sur des fonds perso, qui savent qu'ils ont X mois devant eux avant de plus pouvoir se payer à bouffer, et ceux qui, comme moi, le font un peu en dilettante. Donc, c'est des profils qui vont être complètement différents, et du coup, en termes de stratégie de trajet pour la start-up, c'est complètement différent aussi. Mm-hmm.
Et c'est la question de risque, le niveau de risque.
Complètement. Le risque n'est pas le même. Moi, dans mon cas, on a décidé, avec mes associés, de ne pas prendre le risque de tout plaquer du jour au lendemain. Et, parce qu'il y a femme et enfant et choses comme ça. Moi, il y a femme, il n'y a pas encore enfant. Mais dans l'équipe, il y a femme et enfant et c'est compliqué. Donc, nous, on prend le moins de risque possible. Mais il y en a qui, effectivement, plaquent tout, savent qu'ils ont... X mois où ils vont cramer tout le cash qu'ils ont mis de côté depuis quelques années, et eux, le niveau de stress et de risque, il est collector, quoi.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie complètement, c'est que quand on lance une activité, vaut mieux avoir une très bonne mutuelle, parce que très vite, c'est le rongeage d'ongles, l'ulcère d'estomac, les descamations et tout le reste, c'est assez éprouvant quand même, hein.
Alors là, je veux pas faire de différence entre l'entrepreneuriat normal et l'entrepreneuriat start-up. L'entrepreneuriat start-up,
c'est la même chose. Hein,
ouais, okay. C'est globalement la même chose. En termes de stress, de toute façon, on a une capacité à absorber le stress ou pas, et puis c'est réglé. Mais chez start-up, en fait, très vite, il y a des choses qui vont graviter autour et qui vont mettre une pression un peu particulière. Ça peut être effectivement la structure d'accompagnement, ça peut être si on a levé des fonds des investisseurs, ça peut être, et qui là en fait vont mettre un relationnel avec son propre projet très très bizarre par rapport à, je reviens sur le pizzaiolo, mais qui lance sa pizzeria et qui en gros rend des comptes parfois un peu à la CCI s'il est dans un programme d'accompagnement, ou sinon à son comptable, et puis c'est tout, quoi. Donc il faut quand même être sacrément blindé déjà pour être entrepreneur, mais start-upper, il faut avoir un goût du risque encore plus au-dessus. Et souvent, d'ailleurs, il y en a plein qui viennent j'ai une super idée, je veux monter ma start-up, et qui n'ont qu'une image magique du monde des start-up, parce que c'est vrai qu'on fait de la com.
Ou qui arrivent et qui disent, alors j'ai une idée, c'est secret, je peux pas en parler. Tu veux monter Facebook, comment vous l'avez deviné?
Ouais, donc ça, on oublie.
C'est pénible. Hein.
Ouais, c'est pénible
au bout d'un moment.
Et donc, du coup, c'est un des problèmes qu'il y a quand même aussi, où on a beaucoup de gens qui remplissent des zones tampons pour les démarrages de start-up. Et qui en fait ont pas cette motivation là à comprendre que il y aura on va moi j'ai trop de gens qui... Non, mais je suis en train de monter un dossier, je vais lever sur mon dossier 300 000 euros, est-ce que tu peux prendre 15 jours de ton temps pour m'aider à faire un cahier des charges complet avec un budget et tout pour que je puisse lever des fonds? Mais mec, tu lèveras jamais des fonds comme ça, quoi. Commence à développer un truc dans ton coin, trouve un développeur avec qui tu
on n'arrive pas, voilà. On va pas voir les capitaux risqueurs qui mettent de l'argent comme ça.
C'est aux États-Unis. aux États-Unis, il y a des soirées de pitch. Vous savez que vous venez pitcher une idée et que vous allez repartir avec des tickets qui sont pas quand même monstrueux, mais ça peut être en fonction des trucs de 20 à 150 000 $. Mais
c'est pas mal.
C'est déjà très très bien.
Ça t'assure 15 jours de survie pour tes 15 mètres carrés dans la Silicon Valley.
C'est ça. Non, mais c'est surtout que c'est un état d'esprit qui est cohérent avec. Après, il y a un accompagnement des grosses startups vers les petites startups qui m'a l'air plus fort à la Silicon Valley, des rachats, des choses comme ça. En France, on est quand même beaucoup plus dans son coin, même si voilà, il y a des structures d'accompagnement qui se montent. Et donc, du coup. Entre autres, le financement, c'est pour juste sur une idée. Faut arrêter de rêver, quoi. À part si on est, si en fait on est le fils du meilleur pote de Liliane Bettencourt et que on a eu la chance de lui pitcher l'idée la semaine dernière et que elle avait 2 millions d'euros, donc ça fait pas quoi faire.
Moi, je tiens à mettre les pieds dans les plats et à dire quelque chose qui, à mon avis, va énerver pas mal de monde dans cette pièce, quand même, au fond, même s'ils écoutent pas trop. On est allé au Startup Weekend. C'est le quatrième lauréat qui ne monte pas sa startup, au final.
Ça ne sert pas à monter des startups.
Je suis allé à TEDx Capitole, qui était co-organisé par Orange. Même chose, on avait des pitchs parfaits, mais on n'avait pas des gens qui étaient prêts à les réaliser.
Ah, oui,
j'ai l'impression que c'est devenu beaucoup un concours de pitch ces derniers temps. Et je ne parle pas que du gâteau immonde au chocolat infect au milieu.
Alors, moi, j'interviens dans pas mal de concours d'idées, effectivement. Et c'est ce qu'on a essayé avec l'équipe du Startup Weekend de remettre au centre. C'est plutôt l'aspect éducatif autour de qu'est-ce que l'entrepreneuriat, où on va avoir des coachs qui vont plutôt... au final, le pitch, on s'en fiche un peu à l'arrivée. D'ailleurs, il n'y a pas de dotation. Les dotations ne se déclenchent que si les gens déclenchent les projets. Donc, il n'y a pas de dotation en numéraire, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, c'est vraiment l'aspect. On a oublié. Moi, j'étais venu à l'organisation du Startup Weekend au départ parce que je pensais que j'allais aider à créer des startups. J'ai compris que ce n'était pas possible. Par contre, c'est vrai qu'on retrouve de plus en plus ce problème. Et ça revient au sujet d'avant où les gens croient qu'on va pouvoir lever des fonds sur une idée. Et donc, à partir du moment où ils ont une idée, ils pensent qu'ils vont pouvoir quitter leur boulot et se faire payer par des investisseurs. Non, c'est juste pas possible. Et en fait, le problème de ces concours d'idées, c'est que juste après, les gens découvrent qu'en fait, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut y aller, il faut prendre des risques. Et c'est là où on repart bosser.
On va parler justement plus en détail de la French Tech. Et avant ça, on va recevoir donc Sophie Arutunian qui est venue de la rédaction de la Tribune Toulouse pour parler du start-upper. Et en attendant, on va se faire la coque et la caille. Pair One.
C'est l'écrin que Paris, un beau jour, a choisi pour briller sur le monde. Banlieue, c'est un train qui s'enfuit, emportant dans la nuit des amours vagabondes. C'est ma ville endormie lorsque sonne minuit. Si jolie dans un coin de...
Un coq habitait le même bloc, une cage à poules. Les hauteurs d'une basse-cour où l'histoire se déroule. Le coq alcoolique prenait des cuites de mauvais cru pour oublier ce monde cru et ceci des cuites. La caille, elle était à bloc, mise au banc du pied des coqs qui lui étaient hostiles. Alors pour survivre, la caille en crocodilet vendait des blocs de shit aux plaques squattées. Le hall, son territoire marquait, traînait en bande compacte. Et dans tout le bloc résonnait le boom du jack. Un jour le coq miné par la haine animée prend son combiné, appelle les poulets pour déminer. Les poulets débarquent, la bac traque, les cailles en survêtent qu'elle parque. Les poulets prisent les cailles en croco qu'ils mettent tout dans le même sac.
Le coq et la caille, le coq et la caille, le coq et la caille.
Le lendemain, tout le monde est à bloc. Et quand dans le hall passe le coq, la caille en croco la coste. Le soir, la caille crame la caisse du coq qui craque. Prend son gun par la crosse et ça défouraille dans le bloc. Fait divers ordinaire qui dégénère sur enchère au prime time pour filmer la bataille. Histoire banale dont les pans de la cour royale aimant le jeu de loi tireront la morale. Mais prenez ces mêmes pans au grand discours et foutez-les dans la basse-cour. Laissez-les sur la paille, sur la dalle, avec la dalle. Au bout de très peu de temps, rien à faire, que dalle, y'a pas foule. Les pires cocottes deviennent toutes des chacals dans une cage à poules.
Et nous recevons Sophie Aruturian de la Tribune Toulouse. Aruturian, excuse-moi, je suis désolé.
C'est pas grave.
Je massacre ton nom. Bonjour, comment vas-tu ?
Ça va, merci.
Donc, tu viens parce que, donc, on a dit, on enregistre cette émission dans le cadre de la Human in Tech. Et en même temps, c'est la rentrée. Et dans le cartable des apprentis start-upers, il y a
le start-upper.
Voilà, justement. Donc, c'est une publication annuelle, si je me trompe.
C'est ça, c'est la deuxième édition. Donc, le premier start-upper était sorti l'année dernière. Et donc là, le 27 septembre, mardi soir, il y aura la soirée de lancement pour la deuxième édition du start-upper, qui est donc un guide et un annuaire qui recense toutes les start-ups de Toulouse et de sa région.
On va un peu expliquer ce que c'est que la Tribune Toulouse. Donc, c'est pas seulement une filiale ou une rédaction locale de la Tribune, c'est bien au-delà.
Alors, la Tribune Toulouse, en fait, ça s'appelait Objectif News jusqu'à l'année dernière. Donc, peut-être qu'il y en a qui connaissent encore sous ce nom-là. Et maintenant, c'est en fait l'antenne locale du média national, donc la Tribune, qui compte l'équivalent de 5 journalistes à temps plein. Et notre ligne éditoriale est basée sur la vie des entreprises, l'innovation, la French Tech et le sujet des startups. On l'a investi depuis un petit moment maintenant et donc on essaye d'être assez présent sur cette thématique.
Donc vous avez une couverture plus que régulière de l'activité économique et aussi de la vie technologique sur Toulouse, de la découverte. Donc moi, je l'ai sous une autre matière, pour ne pas rigoler, puisque j'ai l'ensemble des articles qui m'arrivent régulièrement.
Une newsletter qui part tous les soirs à 19h.
Voilà, tout à fait, qui existe aussi au format hebdo. On le trouve dans certains cas, au format numérique, qui est assez complète, qui représente un sacré volume même. Je crois que ça fait une centaine de pages, si je me trompe.
Alors, ça dépend de quoi tu parles. est-ce que tu parles de notre
publication à la fois de la
Tribune ?
Oui, exactement.
Voilà. Alors, sur le print, en fait, on est présent dans un supplément Toulouse qu'on retrouve dans l'hebdomadaire de la Tribune. Alors, l'hebdo de la Tribune, lui, est en kiosque chaque semaine. Et 4 fois par an maintenant, il y aura un supplément Toulouse dans cet hebdomadaire. Donc là, le prochain sort ce vendredi 23 septembre.
Donc, pile à temps. Le start-upper, donc... Quel est le contenu ? Qu'est-ce qu'on va vraiment trouver dedans ?
Alors, le start-upper, c'est un guide. En premier lieu, c'est un guide dans lequel on retrouve, par exemple, les 10 étapes de la création d'une start-up, les 10 points clés d'un business model.
D'accord, c'est pas qu'un annuaire, c'est vraiment un guide pratique derrière.
En fait, toute la première partie du start-upper est consacrée à comment réussir sa start-up. Quelles sont les structures d'accompagnement, comment on se retrouve dans le dédale des structures d'accompagnement à Toulouse. Il y a aussi des interviews d'acteurs de la scène start-up de Toulouse. Il y a l'interview notamment de Cédric Georgie de Sigfox. Il y a aussi l'interview de Laura Elmore qui est coach en stratégie. Voilà, donc c'est la première partie est un guide. La deuxième partie, c'est l'annuaire qui recense à peu près 200 startups. Et depuis l'année dernière, on a constaté, du coup, en faisant ce travail, qu'il y en avait à peu près une quinzaine qui étaient mortes depuis l'an dernier, qui ne sont plus dans le start-upper, mais on en a 40 nouvelles.
Donc le solde est positif. De ce côté-là.
Sachant que c'est très compliqué d'être exhaustif, puisque il y a peut-être des startups qui sont passées sous les radars, qui ne sont pas dans le start-upper, mais 200, c'est quand même pas mal, je pense que... Je pense que c'est assez complet et puis c'est réparti par domaine d'activité.
D'accord. Oui, Julien, tu avais une question.
À partir de quelle maturité de start-up vous les preniez, c'était éligible pour rentrer dans l'annuaire ?
Alors, c'est une bonne question. Il n'y avait pas vraiment de degré de maturité de start-up, sachant qu'en fait, on était assez ouvert. Il y a eu un appel en fait, à manifestation pour que les start-up en fait, remplissent des fiches de renseignement pour être recensées dans le start-upper. Ce qu'on a évacué, en fait, c'est tout ce qui était bureau de conseil. voilà, parce que du coup, voilà, ça rentrait moins. Mais
Julien, tu sors.
Mais du coup, elles sont réparties dans différents secteurs. Par exemple, aéro, système embarqué, internet des objets, économie collaborative, loisirs, tourisme. Bon, voilà, ça, ce sont quelques-uns comme ça. Il y a évidemment des startups. C'est super hétérogène, en fait. Il y en a qui vont avoir un chiffre d'affaires qui est inexistant pour le moment. Et il y en a d'autres qui ont des gros chiffres d'affaires parce que ça fait un moment qu'elles sont là, sachant que c'est toujours compliqué de donner la définition d'une start-up. Voilà, on la donne dans le guide. Enfin, en tout cas, on a essayé d'en donner une.
En tout cas, c'est intéressant parce que c'est au format papier, donc ça n'use pas les batteries, donc ça veut dire qu'on peut annoter. Et
on a toujours pas de réseau. Il y a toujours pas de réseau dans le métro, donc ça occupe dans le métro.
Ça va arriver.
C'est un petit format. Il est sympa. Il est très pratique. Il est très coloré. Le papier est joli. C'est un bel objet.
Donc,
à
il
avoir
est disponible.
Dans son sac à main.
Disponible à partir du mercredi 27 septembre
c'est
en
ça.
Kiosque. À quel prix à peu près?
10 euros,
donc ça reste quand même un prix plus que raisonnable, en tout cas ce qui permet d'avoir
9,50 euros, pardon. Quelle bonne affaire.
Sophie, oui. Tu restes avec nous, oui, on continue à martyriser ce pauvre Julien qui est donc, je le rappelle, cofondateur de Looders App et qui est consultant à innovation et mobilité pour One Light Studio. On parlait tout à l'heure effectivement de la French Tech où il y avait une dizaine de villes qui étaient sélectionnées pour le premier round. Elles ont toutes été renouvelées. On se croirait au temps de l'école des fans. Tout le monde a gagné.
Et puis toutes celles qui ont candidaté dessus depuis ont aussi été rajoutées. En fait, il ne faut pas le voir comme un label qui est là pour valider ou pas une qualité d'écosystème ou d'apport. En fait, il faut voir ça plutôt comme un label pour, en tout cas, à Toulouse pour essayer de rassembler des entités qui sont parfois compétitives, enfin en compétition. J'aime bien le terme de faire de la coopération, de la compétition. Voilà, parfois c'est le cas par exemple les accélérateurs. Qui sont, on va pas se mentir, tous les accélérateurs se battent pour accueillir le plus de startups. Parce qu'il y a des financements à récupérer, des choses comme ça. Et en même temps, ils ont tous un intérêt à être dans la French Tech parce que ça peut rendre, en tout cas la French Tech Toulouse, ça peut rendre l'écosystème plus visible. On n'y arrive pas, honnêtement, c'est compliqué, mais c'est dans la vie de tous les jours.
Est-ce que finalement, on aurait pu continuer sans la French Tech ? Est-ce que la vague, justement, de création d'entités autour de l'innovation et tout ça permettait de s'en passer ?
C'est même pas ça, en fait, c'est pas la question. Il y a plein de choses dont on peut se passer, en fait. Je le vois plutôt comme qu'est-ce que la French Tech a rajouté. Parce que je pense que ça a rien enlevé. L'idée, c'est que comme ça a rien enlevé, que dans le cadre de Toulouse, ça coûte le temps que les gens y investissent un peu. Alors, depuis, il y a un poste qui est financé par Toulouse Métropole. Il y a quelques fonds qui ont été débloqués pour de la com et des choses comme ça. Mais à Toulouse, c'est plus de l'investissement des personnes qui y participent. Donc ça coûte pas grand-chose. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça a apporté ? De la com, il y a des choses concrètes parce qu'il y a des délégations locales d'action nationale, le Pass French Tech, le French Tech Ticket, des choses comme ça. Les délégations locales sont décisionnaires sur quelles startups rentrent dans les programmes de financement ou pas. Après, voilà, on est quand même sur un écosystème à Toulouse qui était déjà, qui était dans les premières labellisations, qui était considéré comme un des écosystèmes qui était le plus structuré avant French Tech. Et le problème, c'est qu'il fallait mettre tout le monde sous le même drapeau.
Oui, parce qu'il y avait pas mal, il y avait pas mal de parties qui étaient concurrentes. Ouais. Ensuite, maintenant, donc il y a cette idée de French Tech où on va spécialiser les villes. Et moi, il y a un
C'est un parallèle.
Oui, mais justement, on dit bien que la French Tech Toulouse va être plus spécialisée IoT. Moi, je comprends pas. Il y a Morning, par exemple, qui est une start-up autour de la banque qui est en train d'exploser. Il y a quand même... est-ce qu'on n'est pas en train de spécialiser malgré tout?
Si je me permets, je suis pas sûre qu'en fait, French Tech Toulouse soit spécialisée IoT. Il y a l'IoT Valley et le projet porté par Ludovic Lemohan qui est clairement branché IoT. Le reste de la French Tech n'est pas forcément branché IoT. Après, si tu parles des réseaux thématiques qui ont été du coup, auxquels Toulouse participe, il n'y a pas FinTech, effectivement. Alors qu'on a Morning... je pense pas que ce soit forcément une catastrophe pour Morning qu'il n'y ait pas de réseau thématique FinTech.
Je crois même qu'ils font le pari de s'en moquer puisqu'ils sont, ils ont monté leur campus à 50 km de Toulouse.
Et puis on a quand même 5 réseaux thématiques sur 9, donc en fait Toulouse est quand même bien présente sur ces réseaux thématiques qui ont quand même pour but finalement de faire... Julien, tu m'arrêtes si je me trompe, mais de faire travailler finalement des entreprises de toute la France sur des secteurs porteurs et donc de faire émerger des leaders.
C'est exactement ce que j'allais dire. Là où French Tech, les métropoles French Tech sont là pour faire de la cohésion locale, en fait, les réseaux thématiques sont là pour mettre de la visibilité verticale à l'international. Donc, encore une fois, il faut le voir comme qu'est-ce que ça apporte plutôt que. Et ça enlève rien. Et effectivement, il y a des startups pour qui ça n'apportera rien parce que dans le cadre de leur ville à elles, ben, elles passent hors des mailles de ce qui a été décidé. Mais bon, ça aussi, c'est un peu la vie.
Chris, je te laisse poser la dernière question pour le coup.
Oui, well, quand j'avais parlé avec les investisseurs dans les États-Unis, ils m'ont dit que le terme French Tech est devenu trop vague pour c'est-à-dire rien. C'est juste qu'il a voulu se voir... Quel est le point fort pour France, la France, mais n'importe quelle vie, mais elle va savoir c'est l'intelligence artificielle, l'IoT, quelque chose pour...
Alors, le problème, c'est que la French Tech, ce n'est pas un label, ce n'est pas agriculture bio, il y a un cahier des charges à respecter pour avoir le tampon agriculture bio. C'est une marque qui est censée, à la base, montrer le savoir-faire français de façon internationale et l'innovation à la française. Moi, il y a sur le French Tech, alors, plus sur une vue, pas investisseur américain, mais tout simplement sur une vue consommateur, il y a un truc que j'aime bien, c'est, désolé si je mentionne la marque, mais les réseaux de boutiques boulangers qui vendent des produits French Tech. En fait, c'est juste des startups qui sont, c'est des produits au milieu des étals, et puis de temps en temps, on sait que ça, c'est une startup et c'est pas un gros mastodon.
Et c'est un référencement privilégié. Hein,
ouais, c'est plus, ça. Ouais. C'est ça. C'est un programme qui coûte pas grand-chose, qui rapporte un peu de visibilité à ceux qui sont derrière, qui sont des startups, et ça rentre effectivement dans la marque French Tech qui n'a pas de cadre particulier. Donc effectivement, il y a des fois où pour des gens ça peut paraître un peu flou, mais encore une fois je pense que ça apporte quand même à pas mal de choses, et les fois où c'est flou, c'est pas grave, ça passe hors des mailles du filet quoi.
Et puis peut-être que ça a popularisé les aquariums à spiruline ou encore que sais-je, des bracelets-montres Wi-Fi, on ne sait pas.
Ça serait marrant.
Julien, merci beaucoup. Sophie, merci beaucoup. Et exceptionnellement, puisque l'émission est dans le cadre du festival Human Intake Int 2016, eh ben, on va terminer par un agenda. Ah non, c'est pas celui-là. C'est ce fond sonore. Le 22 et 23 septembre, donc, c'est les Innovation Day avec 200 intervenants spécialistes de l'écosystème de l'Internet des objets, avec 20 conférences des acteurs majeurs qui partageront leur expérience et 3 keynotes pour nous faire partager leur expérience et ambition et faire les démos produits. Amateurs d'effet Bonaldi, bienvenue. C'est à l'IoT Valley de la Bège sur préinscription via innovation-day.fr. Le 23 septembre, c'est Cyber at Hack de 8h au lendemain 6h du matin, des conférences, des démonstrations de hacking et le concours national de Capture the Flag. C'est à Epitech, 40 boulevard de la Maquette. Plus d'informations sur cyber@hack.fr. On donnera toutes les références sur cpu.pm. Du 26 septembre au 1er octobre, c'est la mêlée numérique. 6 jours de conférences pour les professionnels et plus de 180 exposants pour exposer leur savoir-faire. Alors là, c'est franchement corporate, c'est OK des savoirs. Allez, Jules Guedde, plus d'informations sur le site mêlénumérique.com. Le 27 septembre, publication du hors-série Le Start-Upper, ça on en a parlé. Le mercredi 28 septembre, de 10h à 18h, la Toulouse Robot Race, c'est au 38 Allée Jules Guedde, où on verra plein de robots de formes différentes faire la course, voire essayer de s'attaquer, ça va être assez amusant. Et le 6 et 7 octobre, les conférences MTech 2016 avec Skylar Tibbetts, co-directeur du MIT, Asaf Biderman, directeur associé du MIT Sensible City Lab, Rob Nicol, directeur du Technology Lab au Broad Institute of MIT and Harvard, Kathleen Kennedy, président du MIT Technology Review et du MIT Enterprise Forum, Marianne Praza, directrice de recherche au CNRS, Bernard Sala, directeur recherche et développement à EDF, Nicolas Sab, co-fondateur de Artilec Fab Lab, Laurent Andoli, Global Head Recherche et Développement à Pierre Fabre et Curie, directeur santé à IBM. C'est à 38 Allée Jules Guedde, exclusivement sur préinscription via MTech France. Et je l'ai fait en une minute. Non, deux minutes, top. C'était CPU, le programme carré petit utile pour cette release de rentrée pour la seconde saison. L'équipe était composée de Daskrish, chef Violet Officer, Chris O'Brien, chef Yankee Officer et enflammé chief Cooking Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques des Kitou qui nous ont reçu de longs miroirs de combustible de radio éphémère. Et on remercie le public présent. L'intégralité du programme, les extraits, les sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, c'est en libre accès et en Creative Commons. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h à la radio et en podcast. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi, nous cédons à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé, ça va parler théâtre. Bon Chris, on a une idée? T'as une idée de start-up?
Quoi?
Ouais. Ouais, moi j'en ai toujours pas là. Je sais pas, il y a peut-être un truc. Moi j'ai une idée d'origami, de papier rose pour faire des coques, un truc comme ça, connecté en Bluetooth, un truc comme ça, non, en NFC.
La téléportation, moi vraiment le premier qui m'invente la téléportation, j'achète.
Bah ouais, mais il faut beaucoup de pognon là pour y arriver.
Oh, il y a des investisseurs.
Airbus? Non, ils vont dire non.